Contact FM Territoire, le magazine de la communauté de communes Loire-Luce et Bercé.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro mensuel du magazine Territoire qui aborde les actualités de la communauté de communes Loire-Luce et Bercé. Et pour ce mois de mai, on va parler culture et tourisme. Je reçois pour cela Alain Guillois, élu communautaire de Montval-sur-Loire, membre de la commission culture, tourisme, sport. Colline Bouffetot-Neveu, responsable du pôle solidarité, culture, tourisme et sport. Sandy Servant, responsable de Carnuta, maison de l'homme et de la forêt à Jupille. Et Régis André, directeur de l'école de musique. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, une émission qu'on peut dire habituelle hein, en ce mois de mai, c'est le thème avant la grande ligne droite, on va dire, de l'été, avec toutes les sorties à faire, les bilans. Et pour débuter cette émission, la parole est donnée à l'élu du jour, Alain Guillois. Donc, on va débuter par un sujet assez récent, la sortie du topo guide hein, qui a vu le jour à l'occasion de la journée internationale des forêts. C'était en mars, un topo guide, un document, on va dire, attendu, Alain Guillois ?
Oui, tout à fait. Un document qui est attendu depuis un certain temps, qui s'appuie un petit peu sur les randonnées qui étaient proposées déjà dans les diverses communes sur le territoire de la forêt de Bercé.
Et donc, un travail de longue haleine, on peut dire, hein, où beaucoup d'élus et d'agents ont travaillé dessus ?
Oui, travail très intéressant, très riche, très varié.
Et vous avez participé, vous, à sa mise en place.
J'ai essayé de participer activement, effectivement, aux échanges au travers des commissions.
Et donc, cette sortie, Colline, à une date, on va dire, symbolique, hein, la Journée internationale de la forêt, ça tombait parfaitement bien.
Tout à fait, c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé, pouvoir faire un lancement en grande pompe à cette occasion-là, puisqu'on savait que le public serait présent. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de ventes le jour J, directement en forêt, auprès des équipes de Carnuta qui étaient présentes à cette occasion.
Et ces ventes continuent évidemment, Sandy ?
Ah ben bien sûr, oui, on a mis en vente dans toutes les librairies, les offices de tourisme du Sud-Sarthe et jusqu'au secteur du Mans. Donc ça part très très bien.
Et qu'est-ce qu'on vous dit, vous pouvez répondre tous les trois, sur ce document, le jour de sa sortie officielle et les ventes qui continuent, vu qu'il est en main depuis plusieurs semaines, dans les mains de certains utilisateurs. Vous avez des retours, on vous dit des choses sur ce document ?
Oui, bien sûr. C'est un document tellement attendu que les gens sont assez ravis d'avoir ce document-là. Je pense que le format en fait classeur, tout le monde le trouve très pratique, parce que vraiment, voilà, on peut prendre juste la petite fiche et partir en randonnée. Le nombre de randonnées également, on a une randonnée par commune. Tout le secteur de la forêt de Bercé est vraiment très bien représenté. Et puis enfin, je dirais que le prix, tout le monde est assez surpris par le prix. Parce qu'il faut le dire, c'est un beau support pour un tarif de 8 euros. Donc c'est une des remarques qu'on a eues, notamment par les revendeurs comme les libraires.
Voilà, fallait un objet, on va dire, accessible à toutes les bourses, mais moins de 10 euros. C'est un bel exploit quand même d'avoir pu trouver un tel prix, parce que le financement a un coût forcément.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, la communauté de communes a mis quand même un certain budget sur la table, mais on a eu des partenaires aussi dans le cadre de forêts d'exception qui se sont mobilisés et qui ont financé aussi le projet. Donc l'Office de tourisme de la Vallée du Loir et puis la communauté de communes de Loré de Bercé-Bélinois et le Pays du Mans ont participé au financement du produit.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous, peut-être vous Alain Guillois, les randonnées ça vous parle, vous aimez ça, vous avez testé des itinéraires ?
Alors je n'ai pas encore eu effectivement l'occasion de tester des itinéraires, mais dans le cadre de mes activités de loisirs, effectivement la randonnée c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui est très riche au niveau du topo guide, hein, qui va toucher aussi bien des randonnées pédestres, équestres, que des circuits de VTT. On parlait tout à l'heure d'un montant de 8 euros pour 24 randonnées, un document qui est très très bien présenté, très agréable. À consulter.
Et puis des randonnées de toute distance pour tous les publics en fait. On peut partir en famille, on peut être un randonneur chevronné et chacun y trouvera son compte.
Voilà, tout à fait.
Oui, on avait effectivement essayé de travailler en créant une typologie et une répartition sur le nombre de kilomètres de chacun des circuits. Donc effectivement, vous trouverez des boucles de quelques kilomètres comme des randonnées de plus d'une vingtaine de kilomètres qui peuvent s'effectuer sur plusieurs heures. Donc ça a été vraiment notre choix dans la manière dont on l'a construit, de faire une sélection non seulement d'un sentier par commune, mais aussi qu'il y ait une diversité des types de randonnées et de sentiers et d'espaces forestiers à voir aussi pour essayer de mettre en lumière à la fois effectivement être accessible à tous, de la famille au randonneur le plus chevronné, mais aussi de donner à voir l'ensemble des espaces forestiers qui existent, puisque la forêt est loin d'être uniforme sur notre territoire, c'est ce qui en fait une exception. Donc c'est vrai qu'on a travaillé aussi à avoir autant les châtaigniers que les grands chênes mis en valeur, que d'autres petits espaces peut-être parfois un petit peu moins connus.
Alors quand on fait un tel document avec des parcours de randonnée, est-ce qu'on les teste avant ? Est-ce que vous avez des personnes, des élus, des agents, ou c'est déjà des parcours qui étaient connus ? Parce que quand on crée des documents, il faut que ça soit le reflet de la réalité.
Oui, alors on s'est basé sur l'existant, donc il y avait déjà, voilà, chaque commune
avait ses parcours,
a travaillé sur des parcours de randonnée, donc on avait cette base-là. Nous, en interne, on a pu avoir une stagiaire qui a vraiment fait tout le travail de repérage sur le terrain. Moi, j'ai eu l'occasion donc d'en faire qu'une seule avec elle, j'aurais bien aimé en faire plus, mais voilà, le temps des fois nous manque. Mais voilà, elle a fait tout l'inventaire et elle a pu relever à la fois tous les atouts de chaque randonnée, les spécificités, les petits soucis de balisage ou des choses comme ça. Et puis après, il y a notre connaissance de la forêt, voilà, on est là sur le territoire depuis quand même un grand nombre d'années. Donc à Carnutin, on connaît quand même quasiment la totalité des sentiers sans les avoir faits complètement dans leur totalité.
Et puis on a créé quelques petites nouveautés avec quelques variantes par contre qui n'existaient pas. Et celles-ci, effectivement, c'est nous qui sommes allés sur le terrain. Enfin, on les a identifiées au départ de manière théorique sur carte en se disant « Tiens, ça pourrait être une boucle ou une alternative intéressante. » Et puis après, effectivement, on est allé expérimenter sur le terrain pour regarder si c'était faisable. Et on a pu les intégrer, ce qui apporte quand même une petite nouveauté entre les itinéraires préexistants et ce qui est présent aujourd'hui dans le topo guide.
Donc voilà, on peut dire que c'était un document attendu et qui a du succès, qui était totalement justifié.
Tout à fait, attendu depuis de nombreuses années et on avait fait plusieurs études en amont aussi à l'accueil de Carnutin pour effectivement valider le projet et donc franc succès.
Donc voilà, des randonnées à tester pour l'été qui va approcher à grands pas. Pour le tourisme, pour le volet tourisme, c'est bon. C'était vraiment l'actualité, à revenir un petit peu dessus. Mais c'est toujours bon de rappeler le petit dernier, on va dire.
Tout à fait. Donc ça, c'est pour les actions qu'on porte en direct. Après, évidemment, la Maison du Tourisme et du Vignoble continue sa vie et la programmation est en cours pour l'été. Voilà, donc le lieu vit toujours, puisque effectivement, ça reste un projet de la communauté de communes géré aujourd'hui par l'Office du Tourisme et puis le syndicat des vins du territoire. Donc on est moins en prise directe, mais voilà, le lieu vit aussi et je pense que la programmation sera évoquée à d'autres occasions dans vos programmes.
C'est déjà fait d'ailleurs avec l'Office de tourisme, voilà, on a fait l'annonce ou du moins du début de cette saison. Alors, autre sujet, la culture fait partie de cette commission. La culture, c'est notamment l'école de musique. Régis André, vous en êtes le directeur maintenant depuis plusieurs années. Une école de musique qui se porte toujours aussi bien ?
Tout à fait. On a vraiment une très bonne dynamique cette année. On a lancé, je pense que j'en avais parlé au micro l'année dernière, on a lancé une classe de viol de gambe et de contrebasse. Je vois votre mine étonnée que j'en ai pas parlé.
La viol de gambe, ça ne dit rien.
En tout cas, voilà,
on
a des inscrits en viol de gambe. Il y a une ouverture toujours plus large sur les esthétiques. On va vers la musique ancienne, sans oublier quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, les musiques actuelles. Donc on a vraiment une frange très très large d'esthétiques qui sont proposées à l'école, toujours avec une équipe d'une quinzaine d'enseignants. On a également beaucoup de pratiques collectives qui se sont développées. En 5 ans, j'avais fait les statistiques, plus 50%. Voilà, d'élèves en plus dans les pratiques collectives, donc des groupes qui s'étoffent, de nouveaux groupes. Et on a notamment pour l'orchestre d'harmonie de l'école de musique, une nouvelle tête à la tête de l'orchestre qui s'appelle Aurore Bruère, qui est enseignante en trompette chez nous. Et qui remplace Valérian Foucré, qui est parti vers un autre établissement. Valérian, qui était aussi enseignant de saxophone. Et on a également, dans les nouvelles têtes, Alexis Marchand, qui a repris la classe de saxophone de l'école. Voilà. Donc, un petit peu de mouvement en cours d'année, mais toujours une très, très belle dynamique.
Et au niveau des effectifs, c'est toujours à peu près équilibré d'une année sur l'autre ?
Oui, alors on a eu un petit retrait, on va dire qu'on est aux alentours de 220 élèves, là où on était à 230. On ne sait pas encore trop pourquoi. On pense aux JO. Les enfants, ils ont beaucoup fait de sport cette année, donc on verra si l'année prochaine ça repart ou pas. Mais je suis plutôt confiant là aussi.
Et toujours deux sites, hein, on le rappelle, qui n'est qu'une école de musique, mais en deux lieux, Château du Loir, Montval et Marçon, voilà. Une école de musique dispatchée sur le territoire. Et on n'y oublie pas non plus, sur le Grand Lucé, un pôle aussi
alors,
en lien.
C'est pas un pôle, mais on travaille beaucoup avec l'association des Lyres Lucéennes. Alors, on a développé plusieurs modes de partenariat avec eux. Les Lyres Lucéennes qui sont basées donc sur toutes les communes du nord du territoire. On a un partenariat en termes de communication, puisque vous pourrez retrouver notre plaquette avec leur plaquette à l'intérieur glissée, ce qui fait qu'il y a vraiment une vision de la proposition d'enseignement globale sur le territoire. On a également un partenariat par des recrutements communs. Notre enseignante, notamment, dont je parlais tout à l'heure, Aurore Bruère, en trompette, est également enseignante sur le nord du territoire chez eux. Et on a aussi forte politique de subvention auprès de cette association, puisqu'on leur verse 21 000 euros cette année pour leur fonctionnement.
Alors, l'école de musique, ce qu'on appelle des auditions, maintenant on ne dit plus auditions.
Quand je suis arrivé, j'ai pas changé le nom, c'était des Méli-Mélos. Et je trouve ça très joli.
Voilà.
Alors les Méli-Mélos, on en a un certain nombre sur l'année. Là, pour cette année, c'est terminé. En fait, on a environ une quarantaine d'événements sur l'année. Une vingtaine en interne à l'école. Et puis une vingtaine dans les écoles primaires du territoire. Et qui, elles, sont quasiment toutes centrées sur le mois de juin. Donc là, on a nos intervenants au milieu scolaire qui vont prendre le relais sur la fin de l'année pour toute la partie événementielle. Et ils sont présents, j'ai fait le compte, dans 25 écoles sur le mois de juin cette année. Les samedis, les dimanches, en soirée, dans toutes les communes ou presque de la communauté de communes.
Des activités aussi avec, vous le disiez, des ensembles de musique actuels, orchestre de l'école en répétition conjointe avec l'harmonie de Marçon. Ça aussi, c'est un travail partenarial.
Oui, j'en ai pas parlé, effectivement. L'orchestre d'harmonie travaille en partenariat avec l'harmonie de Marçon, c'est-à-dire qu'on répète communément. Et c'était une manière aussi de soutenir l'harmonie qui, il y a 2 ou 3 ans, n'avait plus de chef de musique. Et donc, par ce biais-là, ça a permis que ces deux mondes-là se rencontrent, l'école de musique et le milieu de l'harmonie associative. Et ça a permis aussi de se renforcer l'un l'autre, puisque finalement, les effectifs vont, pour l'école de musique, être plus importants, puisque l'harmonie vient jouer avec l'école quand on se produit sur des concerts. Et réciproquement, on a des élèves de l'école de musique qui se sont inscrits durablement dans l'harmonie pour aller se produire sur leurs événements.
Alors, vous parliez de départ, d'arrivée au sein de l'équipe. On peut aussi citer la nouvelle assistante de direction, hein, Catherine Péchant, est en partie il y a quelques temps. Il y a donc une nouvelle personne qui l'a remplacée.
Tout à fait. On a accueilli depuis le mois de septembre dernier Delphine Basilé, quelqu'un de très dynamique, qui a su faire tout de suite prendre ses marques et aller vers les élèves, mais également vers les enseignants. Très appréciée. Et puis, elle a donné tout de suite son coup de patte au niveau de la communication, puisqu'elle a beaucoup développé cette année toute la partie Facebook et elle a lancé très récemment un Instagram.
Et au quotidien, son travail, c'est quoi? C'est, on va dire, plus le secrétariat de l'école de musique. Vous ne pouvez pas tout faire.
Alors, elle a effectivement un travail d'accueil et puis de gestion de l'école au niveau du secrétariat. Mais elle a quand même un rôle d'assistant de direction dans le sens où elle va aller également sur le terrain, notamment en milieu scolaire, pour prendre des photos, pour faire un suivi. Voilà, c'est un poste qui s'est un petit peu élargi avec son arrivée.
Et elle prend aussi en charge, j'imagine, les inscriptions. Là, on est fin mai, les inscriptions sont déjà reparties. Priorité aux déjà inscrits, comment vous organisez ça?
Eh bien, on est précisément en plein dedans. On lance là les réinscriptions, c'est-à-dire que les élèves qui sont déjà élèves à l'école vont avoir la priorité pour se réinscrire. Et à partir du 10 juin, on accueillera le public à l'école de musique, sur rendez-vous ou sans rendez-vous, pour des renseignements et puis pour des inscriptions. Ça durera jusqu'à début juillet et ensuite on reprendra à nouveau la dernière semaine d'août des inscriptions qui continuent sur tout le mois de septembre.
Et au cours de l'année, ça vous arrive d'en prendre selon les places évidemment dans chaque discipline?
Oui, tout à fait. On a un petit mouvement d'une dizaine d'inscriptions sur l'année, mais c'est quand même relativement stable. C'est un enseignement où, voilà, on est quand même sur un niveau, sur une phase scolaire où finalement les gens ont quand même bien pris le pli de s'inscrire, de commencer en septembre et de finir à la fin de l'année. Pour autant, voilà, on peut avoir des déménagements, des aménagements sur le territoire. Et là, effectivement, ça peut arriver en cours d'année.
Autre chose, Régis André, à ajouter voilà, sur votre mission de directeur et de votre structure musicale.
On aura vraiment grand plaisir à vous rencontrer et si vous avez envie d'apprendre la musique, de découvrir, il y a plein de parcours différents, vous pouvez venir, on est dans le parc du Ménil, tout en haut, une grande maison bourgeoise super sympa, c'est Château du Loir, voilà. Et donc Delphine et moi-même, on pourra vous renseigner. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook ou sur Instagram, où vous aurez toutes les informations au fur et à mesure de l'année.
C'est le nom, c'est École de Musique Loire-Lucé-Bercé, je crois, c'est ça?
Exactement.
Merci beaucoup Régis.
Merci.
Et on va poursuivre cette émission en parlant de Carnuta. Toujours beaucoup de choses à découvrir, à faire, à voir. Avec peut-être pour débuter un bilan de la saison passée.
Oui, alors pour Carnuta, donc l'année 2024, on a eu un peu moins de visiteurs qu'en 2023, parce que 2023 était une grosse année touristique sur le département. Donc on est un petit peu en dessous des 12 000, donc on est plus proche d'une année 2022 que de 2023. Mais sinon, voilà, on a à peu près toujours moitié de visiteurs qui sont du public individuel et puis notre moitié qui sont les groupes. Voilà, ça reste assez stable. Et puis voilà, toutes les activités ont quand même plutôt bien fonctionné. On a plus de 80% de remplissage sur toutes les activités qu'on peut proposer à l'année. Donc ça reste voilà, quand même une belle année malgré quelques petits chiffres un peu en dessous.
L'expo actuelle, c'est Force de la Nature. J'étais venue vous voir, évidemment, pour en parler. Deux mots sur l'exposition?
Oui, alors elle va être en place tout l'été. Donc c'est une exposition qui met vraiment en avant toute la biodiversité de la région des Pays de la Loire et qui va permettre de découvrir à la fois tout ce qui est les paysages, les espèces animales et végétales qu'on peut retrouver sur notre territoire et puis notamment avec un zoom sur les espèces naturelles sensibles de la Sarthe.
Alors on peut anticiper un petit peu sur la prochaine exposition parce que votre planning, il est fait, on va dire, quelques temps en avance. Vous savez ce que vous allez proposer au public?
Oui, le programme, il est fait sur une année complète. Donc, c'est vrai qu'on peut annoncer déjà pour l'automne quelques informations. Et notamment, on avait un projet, un partenariat avec l'association L'Aventure de Marçon, qui a lancé un appel à projet auprès des écoles pour travailler sur la thématique des trognes, donc les arbres têtards, auxquels, voilà, on s'est greffé et on a souhaité que les enfants puissent exposer, puisqu'ils vont, voilà, dans cet appel à projet, ils créent des œuvres plastiques et artistiques qui vont exposer à Marçon, mais on leur a proposé d'exposer aussi durant 15 jours au mois de septembre à Carnuta. Et donc, du coup, qui dit trogne m'a tout de suite fait penser à Dominique Mention, qui est un artiste et un grand spécialiste des trognes, qui est dans le département juste à côté. Et donc, on lui a proposé à la suite d'exposer tout l'automne et l'hiver à Carnuta ses œuvres qui sont autour des trognes.
Voilà quelqu'un qui était venu au tout début de l'ouverture de Carnuta. Donc ça remonte. Voilà un personnage qu'on n'oublie pas parce que le thème n'est pas commun, on peut dire.
Ah oui, exactement. Bah, c'est quelque chose qui ne parle pas forcément à beaucoup, mais quand on en parle, après, on en voit partout.
Oui, hein,
dans
ça.
Montval, si vous regardez bien, il y en a partout. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut aborder à la fois d'un côté très scientifique et biodiversité, et puis à la fois aussi d'un côté plutôt imaginaire, comme ce que sait très bien le faire Claude Ponty, où là, on peut y voir des visages, des personnages. Donc, les enfants, voilà, ils travaillent à la fois sur ces deux volets.
Alors, vous parliez de l'automne avec les trognes. Il y a aussi pour l'automne prochain un renouvellement du label Tourisme et Handicap. Renouvellement, ça veut donc dire que vous l'aviez déjà?
Oui, c'est un label qu'on a depuis l'ouverture de Carnuta, depuis 2010. On a déjà eu le renouvellement une précédente fois. Donc là, voilà, c'est tout un dossier pour conserver en fait ce label. Bah, l'idée, c'est toujours de s'améliorer un petit peu. Donc là, on va commencer à travailler dessus. Voilà, pour voir si on peut ajouter des outils ou de l'accessibilité, voilà, ajouter des petites choses qui peuvent permettre à tout type de public de venir, parce qu'on est labellisé sur les, voilà, les quatre handicaps. Donc, que ce soit à la fois dans leur visite quand ils viennent seuls, voilà, qu'ils puissent avoir le maximum d'outils à leur disposition, ou alors dans nos visites, de développer un maximum de sensoriel, par exemple, pour que ça puisse autant s'adapter à des malvoyants ou à des malentendants.
Alors avec la réouverture 2025 de Carnuta, on rappelle, vous êtes fermé, vous, c'est le mois de janvier. Il y a eu donc la nouvelle exposition, mais aussi une boutique qui propose de nombreuses idées cadeaux et de belles objets en tout genre.
Exactement, ça a été voilà, le gros projet d'investissement pour Kernuta sur cette fin d'année 2024, où on a voilà, en effet fait le choix de refaire ou de faire tout simplement une boutique, parce que l'espace qu'on avait auparavant était assez petit et puis pas forcément aménagé. Donc là, voilà, on a travaillé avec l'entreprise Couleur Bois, qui a vraiment conçu un nouvel espace. Et puis, on a également retravaillé l'accueil qui nous a permis en fait d'agrandir le côté boutique et de mettre beaucoup plus de produits en vente. Et l'idée, voilà, c'est vraiment que les visiteurs puissent repartir avec un petit souvenir de chez nous, mais aussi que tous les habitants du territoire puissent y voir une petite boutique où on peut y faire des cadeaux, pour soi d'ailleurs, ou pour offrir à d'autres, voilà, avec quand même une gamme assez large.
Et pour 2025, il y a aussi des projets en parallèle du musée en lui-même, on peut dire ?
Oui, alors sur les projets au lien avec la Belle Forêt d'Exception, où on a toujours voilà, les groupes de travail qui sont très actifs. Et là, sur le groupe de travail patrimoine, il y a un stagiaire qui est arrivé et qui va travailler sur un petit peu tous les recensements des fêtes qu'on pouvait avoir en forêt de Bercé. Alors, il va essayer de reculer le plus loin possible, mais et dans l'objectif de collecter un maximum d'informations, à la fois dans les archives, mais aussi de faire du collectage oral des personnes encore témoins sur le territoire. Et puis, on l'espère pour en faire une exposition, donc qui sera sans doute, je l'espère, à Kernuta. Donc ça, voilà, c'est un des projets qui va nous occuper sur les quelques mois à venir. Et puis, pour juste, voilà, sur la Belle Forêt d'Exception, terminé dessus. Donc chaque année au niveau national, il y a des journées de 3 jours qui sont organisées pour regrouper toutes les forêts d'exception de France. Et donc cette année, donc fin juin, ce sera la forêt de Bercé qui va accueillir tous à la fois les élus et les techniciens qui travaillent sur la belle forêt d'exception en forêt de Bercé. Donc pour un bon moment et une belle vitrine pour notre forêt.
Et vous, vous êtes en lien aussi avec l'école de musique. Il y a des passerelles qui sont créées. Vous travaillez ensemble ?
Oui, alors c'est vrai que pour le service culture, pour l'école de musique, c'est beaucoup plus ancien, mais pour Kernuta, ce serait la deuxième année. Et là, on va attaquer à une troisième année où on propose des interventions en milieu scolaire.
De quelle manière alors ? Comment ça se déroule et ça se met en place ?
Alors, c'est une des propositions qui entre effectivement dans le catalogue de l'offre d'intervention en milieu scolaire de la communauté de communes et qui permet aux écoles du territoire, en l'occurrence pour l'offre qui concerne Kernuta, d'accéder à un cycle de 4 temps d'intervention sur l'année. Donc, c'est vraiment un format qui est un petit peu différent de celui du sport ou de la musique. Hein. C'est quelque chose de plus ponctuel, mais qui s'inscrit quand même dans le temps d'une année scolaire. Et donc, les écoles ont à leur charge uniquement la dimension transport scolaire vers Kernuta si elle souhaite conclure ce cycle par une visite de Kernuta et de la forêt, ce qui est quand même généralement plutôt souhaitable. Mais l'accès, l'entrée au musée est gratuite pour ces écoles-là. Et elles ont bénéficié en amont de temps d'intervention. Donc c'est Emmanuel et Justine qui interviennent dans les écoles du territoire autour de thématiques bien particulières comme les abeilles, la biodiversité, etc. Les 4 saisons et l'évolution des paysages et de la forêt au cours des saisons. Et donc elles interviennent, elles font... ça s'inspire un petit peu de l'école du dehors, donc elles vont aussi dans le milieu proche de l'école et sur une logique un petit peu de comparaison aussi entre le milieu proche de l'école et puis la forêt, comment on retrouve des similitudes ou au contraire des choses un petit peu différentes. Quand il y a une mare à proximité de l'école, elles vont aussi travailler autour de la mare. Voilà, elles s'adaptent et elles exportent finalement Kernuta hors des murs et leur savoir-faire et leur savoir autour de la biodiversité, du paysage, de l'environnement au sein des écoles dans un projet qui est co-construit entre les classes qui en bénéficient et puis les animatrices nature qui déploient ce projet.
Et voilà, au niveau de la réceptivité des enfants, c'est une approche différente et plutôt attrayante, on va dire.
Ah bah oui, on est vraiment sur quelque chose qui va être sensoriel et qui va vraiment être dans leur milieu qu'ils connaissent. Donc c'est toujours pour les enfants une belle découverte et voilà, vraiment de faire ce lien aussi entre leur espace du quotidien et la forêt de Bercé, qui sont quand même 2 milieux assez différents. On a une forêt qui est gérée hein, par l'homme, donc c'est aussi intéressant d'en parler. Donc oui, c'est une grande ouverture pour les enfants.
Kernuta, il y a d'autres actualités dont on peut parler. Peut-être expliquer qu'il y aura une nouvelle signalétique dans le courant de l'année aussi ?
Oui, alors c'est vrai que dans la continuité de la boutique, on continuera à travailler avec l'entreprise Couleur Bois pour travailler sur une signalétique en façade de Carnutal, parce que c'est vrai que ça manque un petit peu. Donc voilà, pour préciser en effet qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur, que ce soit à la fois le côté musée, mais aussi maintenant voilà, le côté boutique. Donc voilà, c'est des choses qui vont être travaillées dans les mois à venir. Et puis bien sûr, après, bah, juste qu'on peut voilà, retrouver toute la programmation, puisque durant tout l'été, il y aura des activités, il y en a 3-4 par semaine. Donc, faut pas hésiter à regarder tout le détail sur Internet ou sur les réseaux sociaux.
Pour Carnutal, on a fait le point aussi ?
On a fait le point.
Alors, on a oublié tout à l'heure, pour l'école de musique, vous en parliez à l'instant, des interventions, on va dire, dans le milieu scolaire. C'est le cas aussi, évidemment, l'école de musique, avec le nouveau dispositif, hein, l'orchestre à l'école qui a été mis en place pour la rentrée de septembre.
Tout à fait. On a un dispositif supplémentaire. Donc, on en avait démarré un à l'homme il y a 3 ans maintenant, qui a duré 2 ans. Et l'objectif, c'est vraiment que ce dispositif d'orchestre à l'école, il puisse migrer d'école en école tous les 2 ans. Donc, la communauté de communes a pris la décision d'en lancer un deuxième. Le premier était plutôt basé sur un orchestre à cordes. Le deuxième est plutôt typé harmonie avec des saxophones, des clarinettes, des percussions. Donc, l'orchestre d'harmonie est implanté à Montval, sur l'école Beauregard, et l'orchestre à cordes est maintenant à Villennes-sous-Lucet. Donc là, ils sont dans leur première année. C'est 2 très beaux orchestres parce que vraiment, les écoles sont très, très impliquées. Les enseignants ont un vrai suivi. Je parle là de l'éducation nationale. Et donc, c'est très, très agréable de travailler sur ces 2 structures avec donc à chaque fois 3 enseignants de l'école de musique qui vont sur temps scolaire pour apprendre la musique aux enfants par pupitre, donc par petits groupes et par instrument dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, toujours à l'école, pendant 45 minutes, sur un format d'orchestre où là, les enfants apprennent à jouer ensemble.
Et pour la rentrée de septembre 2025, il y a une nouveauté, l'ouverture pour les écoles privées, ce dispositif, c'est ça ?
Alors, le dispositif orchestre à l'école en soi sera ouvert aux écoles privées quand il y aura un nouvel appel à candidature, mais celui-ci sera seulement en 2026,
voilà.
Du coup,
et encore
pour
une année
septembre
à faire,
2026.
Voilà.
Par contre, effectivement, la communauté de communes a pas mal retravaillé son dispositif d'intervention en milieu scolaire depuis 3-4 ans maintenant. Et parmi les évolutions qui ont été faites, il y a eu la prise de compétences sur les interventions sportives qui nous ont conduit à... parallèlement, travailler à l'ouverture du dispositif des interventions en milieu scolaire aux écoles privées du territoire. Donc, on a démarré sur les interventions sportives dès septembre dernier, septembre 2024, où toutes les écoles, y compris les écoles privées, ont bénéficié du sport. En revanche, pour le dispositif musique qui existait déjà et qui se traduit par les spectacles de fin d'année que Régis évoquait tout à l'heure, là, la nouveauté, effectivement, c'est que les écoles privées du territoire peuvent en bénéficier à compter de septembre 2025.
Donc un beau dispositif, Alain Guillois.
Les interventions aussi bien sportives que musicales, ça permet de l'équité sur le territoire, c'est-à-dire que tous les enfants du territoire auront aussi bien les interventions sportives depuis octobre-novembre 2024 et à compter de septembre 2025, ça sera de même pour les interventions musicales. Donc c'est... on ne peut que s'en réjouir.
Voilà. Voilà. Et c'est un coût évidemment, mais il y a des choix à faire dans la politique communautaire, quoi.
Voilà, tout à fait.
Et puis, ça a un coût, mais quand on a travaillé autant à la refonte des interventions musique que des interventions sport, on l'a fait à quasi coût constant. C'est-à-dire que on a plutôt travaillé à la refonte d'un dispositif à moyen constant, avec des systèmes de rotation notamment, et d'évolution du niveau de service, de manière à desservir le plus grand nombre. C'était vraiment le mot d'ordre, ou en tout cas la direction politique qui avait été choisie, c'était effectivement d'essayer de travailler à l'extension de ses compétences sans en donner un coût énorme. Donc sur le sport par exemple, le coût est un petit peu plus conséquent qu'il ne l'était auparavant, mais comme en fait on est sur une logique de transfert de compétences, finalement avec les moyens que mettait la commune de Montval sur la table pour l'exercer et les moyens que la communauté de communes mettait sur la table parce qu'elle avait la compétence sur le secteur Val-du-Loire. Tout ça réuni avec un petit peu plus de 5 000 euros de plus à l'année pour la communauté de communes, et bien finalement, on arrive à desservir aujourd'hui 1 500 enfants sur le territoire qui bénéficient des interventions sportives en milieu scolaire à compter depuis septembre dernier.
Voilà, ce sont des enfants qui n'ont pas forcément accès à titre personnel ou pas forcément des familles qui ont les moyens. Là, c'est une ouverture sur le sport. Et aussi avec ces interventions musicales sur la musique, c'est une ouverture d'esprit, hein, et de faire découvrir tout simplement.
Tout à fait. La logique, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, l'accessibilité, la sensibilisation au plus grand nombre. On ne fera pas, à travers nos interventions en milieu scolaire, ni des grands sportifs, ni des grands musiciens. Par contre, on permettra à chacun des enfants de bénéficier effectivement d'interventions de qualité. Et puis, on permet aussi aux enseignants du territoire de se former et de bénéficier, de pouvoir monter des projets dans lesquels ils n'oseraient pas forcément se lancer tout seuls. Un sport un peu innovant ou un peu compliqué qui nécessite un matériel que l'école n'a pas forcément. Mais nous, on a des leviers pour obtenir ce matériel-là en mise à disposition. Un projet structurant en musique sur lequel l'enseignant se sentirait pas... dans un premier temps, en tout cas, d'aller diriger une chorale et qui, là, bénéficie de l'expertise du musicien intervenant et qui, derrière, se lancera peut-être ou, en tout cas, voilà, ça lui aura peut-être donné l'envie de poursuivre et de continuer seul. Donc, c'est à la fois au bénéfice des élèves et aussi des enseignants sur le territoire.
Quand on voit l'orchestre à l'école, là, à Beauregard, j'étais faire un reportage il y a quelques temps, il y a un engouement de la part des enfants, c'est impressionnant quand même. Et ils évoluent, ils progressent très vite, en fait.
Tout à fait. On utilise une forme un peu particulière qui s'appelle le sound painting pour diriger les enfants. Une méthode signée, comme si on avait des gestes de peinture. C'est une méthode américaine et on a un enseignant, Antoine Moulin, qui maîtrise ça tout particulièrement, qui peut diriger les enfants. Et donc ça en fait aussi quelque chose de très ludique et très imagé pour eux.
Autre chose à ajouter, messieurs, dames, pour refermer cette émission?
Moi, je pourrais dire pour conclure que la commission culture, sport et tourisme est quand même très, très riche en variété de sujets. Et vous me donnez en même temps l'occasion de féliciter, de remercier Colline, Sandy et puis Régis pour leur dynamisme et puis leur grand professionnalisme.
On conclut sur ces belles phrases?
Tout à fait.
Voilà.
Moi, je trouve ça vachement bien.
C'est voté à l'unanimité, voilà, c'est parfait. Bah, merci beaucoup à vous quatre.
Merci à vous.
Et puis, un bel été, hein, que ce soit à Carnuta. Vous, ça reprend en plus en septembre, mais les inscriptions, voilà, c'est ouvert. Réinscription puis inscription.
Complètement,
donc, faut pas
on vous
hésiter.
Attend tous à compter du 10 juin.
Merci beaucoup à vous
merci.
Quatre.
Merci.
Merci. Merci.
Contact FM Territoire, le magazine de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé.